beaucoup de You Love Words pour l'invitation aujourd'hui. Et donc, comme le disait Bertie, donc je travaille chez Clépierre. Alors, je suppose que pas tout le monde me connaît. En général, c'est la réaction que j'ai. Donc, pour vous présenter brièvement Clépierre et du coup, moi, par la même occasion, donc je m'appelle Émilie Grigny. Je suis au marketing group de chez Clépierre, donc au niveau européen. Et j'ai en charge tous les sujets de branding, d'événementiel et de contenu. Et pour vous parler un peu de Clépierre, donc on est leader européen des centres commerciaux. Donc en fait, ça représente à peu près 100 centres dans 12 pays européens. Donc on a, voilà, on a un beau portefeuille de centres commerciaux. Et pour vous parler un peu des centres parisiens qui peut-être vous parleront un peu plus, donc on a Saint-Lazare, Créteil-Soleil, Val d'Europe, Belle Épine et j'en passe. Donc voilà, donc ce qui est très important chez Clépierre, c'est qu'on ait plus de 1100 collaborateurs, puisque c'est un chiffre dont on va parler aujourd'hui, et aussi que on a donc, comme vous le voyez, on fait un joli chiffre d'affaires, même si on a un petit peu souffert de la crise, mais bon, on est toujours là. Et donc vous allez me dire, chez Clépierre, je comprends pas pourquoi Clépierre va s'intéresser à créer du contenu. On est un centre commercial, c'est bizarre de prendre la parole auprès de ses clients, c'est assez complexe. Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Mais je tenais d'abord à vous faire un petit zoom sur quelque chose qui s'appelle Clépierre University chez nous, donc qui est en fait notre académie, mais au sens très large de la société. Donc c'est l'école interne des métiers du groupe Clépierre, qui suit du coup trois objectifs. Le premier étant de s'adapter en permanence aux besoins de l'entreprise, dont ça rejoint un petit peu ce qui se dit depuis ce matin, c'est-à-dire qu'on va avoir des créations de métiers qui n'existent pas à l'heure d'aujourd'hui. Donc on a besoin de monter en compétence sur ces futurs métiers-là et on a toujours besoin de s'améliorer. Donc c'est un des objectifs de Clépierre University. C'est aussi de soutenir le développement des employés. Donc pour nous, la mobilité interne est très importante, que ce soit à travers les différents pays dans lesquels on est implanté, mais aussi dans les différents services, c'est-à-dire qu'on n'est absolument pas fermé que quelqu'un du marketing passe dans le secteur commercial, comme quelqu'un du contrôle de gestion pourrait passer à l'asset management. C'est des choses qui se font très fréquemment chez nous, et justement grâce à ces dispositifs de formation-là. Et évidemment, pour rejoindre aussi ce qui se disait ce matin, renforcer l'engagement et la motivation des salariés, parce qu'au-delà des formations métiers que nous avons, il y a aussi des formations de langue. Comme on est présent dans 12 pays, on parle beaucoup de langues, enfin du coup on parle anglais, mais effectivement c'est intéressant pour nous de se dire bah, j'ai envie d'apprendre l'italien, j'ai envie d'apprendre l'espagnol, le polonais, que sais-je. Donc voilà, c'est une possibilité qu'on a aussi en interne chez Clépierre. Et donc pour vous donner un peu des chiffres clés de cette université de Clépierre, donc 100% de nos collaborateurs ont accès à la formation. On a en moyenne 3 jours de formation par an et par personne. Ces formations, donc ces 3 jours comprennent à la fois des formations en présentiel comme des formations en module e-learning. D'ailleurs, on travaille avec Teach on Mars qui était là aujourd'hui sur notre application d'e-learning. Là, actuellement, on a plus de 35 modules de e-learning sur notre outil. Et en tout, en 2021, il y a 18 296 heures de formation qui ont été réalisées. Donc, c'est un beau chiffre et qui a permis de grandir aussi grâce au Covid. Hein. C'est, pour le coup, ça nous a permis de créer plus de liens entre les employés et aussi de créer de la curiosité parce qu'on avait plus de temps, parce que nos centres étaient fermés. Donc, l'activité était largement en baisse, mais on est resté motivé et on est toujours là. Donc, voilà. Et donc, pour revenir un petit peu au sujet marketing, donc juste pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, comme je vous ai dit, moi, je fais partie de l'équipe Marketing Group. Donc, en fait, on s'occupe de la stratégie au niveau européen et aussi de la partie innovation. Quel sera le rôle et quelle sera l'identité du centre commercial de demain, surtout face au e-commerce qui se développe de plus en plus et qui est un gros challenge continu pour nous. On a aussi des équipes marketing nationales, donc pour chacun de nos 12 pays, qui s'occupent du coup de transposer notre stratégie européenne au niveau national, donc parce qu'il y a vraiment une dimension culturelle. Par exemple, on ne peut pas adopter la même stratégie marketing en France ou en Italie qu'on adopte en Pologne ou en Turquie. Donc c'est un vrai sujet pour nous. Et aussi qui s'occupe d'accompagner du coup les équipes de centres, donc les responsables marketing de centres commerciaux, qui elles du coup sont purement dans l'opérationnel et qui ont besoin d'un soutien plus global et plus stratégique avec plus de recul des équipes nationales et parfois même des équipes groupes selon les projets. Et il y a aussi une notion à prendre en compte dans notre écosystème marketing qui sont les agences, parce que ce soit au niveau groupe, au niveau national ou au niveau local, on travaille tous avec beaucoup, beaucoup d'agences. Et donc, c'est un écosystème énorme sur lequel il faut travailler pour créer des ponts entre les agences et surtout de la cohérence du point de vue du client qui est très importante pour nous dans le parcours client d'un centre commercial. Donc, voilà. Et donc, pour vous parler de mon retour d'expérience sur le projet de formation dont on vous a un petit peu parlé, Bertie, jusqu'à présent, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, pour un centre commercial, c'est très difficile de prendre la parole et de créer du contenu parce qu'à la fois, on est agrégateur d'énormément de marques qui sont présentes dans nos centres commerciaux et à la fois, on a une typologie de clients qui est très large. On va avoir des seniors, comme on va avoir la génération Z, comme on va avoir des familles, comme on va avoir des CSP+, et tout dépend de l'implémentation géographique du centre. Donc, c'est une grosse problématique pour nous et c'est ce qu'on a essayé d'adresser avec ce projet, donc, qui était le projet d'avoir un fil rouge et une stratégie de contenu européenne qui servent de base à tous nos centres pour créer leur contenu. Parce que ça s'est implémenté dans un projet encore plus global où on a créé une usine à site internet pour uniformiser nos supports et nos canaux de communication. Donc ça a été un gros projet et l'étape suivante était la création de cette fameuse stratégie de contenu. Parce qu'on constatait que d'un pays à l'autre, on avait des gros écarts, que ce soit sur la quantité ou que ce soit sur la qualité du contenu créé. C'est-à-dire qu'on a certains de nos centres, par exemple au Portugal, qui prennent la parole sur l'actualité, qui vont commenter, par exemple, la cérémonie des Oscars. Et alors qu'en tant que centre commercial, on n'a pas forcément de valeur ajoutée à parler de ce qui s'est passé aux Oscars. Ça se fait peut-être bien sur les réseaux sociaux, mais ça ne se fait pas sur un site internet, encore une fois, parce que le contenu est moins approprié. Et on remarquait aussi, comme je le disais, qu'entre les différents canaux, que ce soit le site internet, le CRM, nos réseaux sociaux ou encore notre programme de fidélité. On avait certains canaux qui étaient délaissés face aux réseaux sociaux qui sont du coup plus faciles à prendre en main pour les équipes centres qui sont sur le terrain. C'est beaucoup plus facile de faire une story, c'est beaucoup plus facile de faire un post, de faire un petit sondage. Voilà, donc c'est plus agréable aussi et fluide. Donc notre but c'était d'améliorer tout ça en améliorant la qualité de notre contenu, que ce soit sur la partie ou sur la partie texte, avec une vision du coup omnicanale, de se dire ok, on peut parler d'une même chose, d'un même sujet sur les différents canaux, mais il faut l'adresser de façon différente, que ce soit sur le réseau social ou que ce soit en newsletter ou sur un site internet. Et aussi, du coup, de proposer à nos clients une plus grande qualité et une plus grande quantité de contenu pour informer, inspirer et générer du trafic dans nos centres commerciaux et aussi sur nos canaux digitaux. Donc voilà, donc comme je le disais, donc les objectifs, créer du contenu drive store, puisque nous, la finalité, c'est la venue en centre commercial, qui est d'ailleurs assez difficile à mesurer, puisque ça impose la gestion des données et donc les cookies, et donc c'est un gros sujet. Et aussi de développer du contenu qui soit à la fois commercial pour promouvoir les marques qui sont dans nos centres commerciaux, mais qui soit aussi inspirationnel parce que le client, et on le voit de plus en plus, n'aime pas un contenu purement commercial. Il faut avoir une approche beaucoup plus inspirationnelle et beaucoup plus humaine. Donc, c'est vraiment, vraiment un gros sujet aussi. Et donc, quand on a créé ce projet, on s'est dit d'accord, donc on va créer une stratégie de contenu européen, une stratégie de contenu européenne, très bien, mais comment on fait quand il y a certaines équipes sur le terrain qui n'ont pas les compétences pour assumer cette stratégie et la dupliquer au niveau national, voire au niveau local, en centre. Donc on s'est dit d'accord, il faut qu'on organise une formation, il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on aide nos collaborateurs à monter en compétences sur la création de contenu et remédier surtout aux écarts au milieu de tous ces collaborateurs-là. Pardon. Donc les objectifs de cette formation, c'était d'aider à la compréhension de la stratégie de contenu. Qu'est-ce qu'une stratégie de contenu? À quoi ça sert? Sur quoi ça se transpose au quotidien? Faire monter en compétences les équipes sur la production et la diffusion de contenu, parce que par exemple, la prise de photo est un gros sujet aussi. On n'a pas tous le même matériel, on n'a pas tous les mêmes téléphones, il y en a qui ont des appareils photo, il y en a qui n'en ont pas. C'est un détail, mais ça joue énormément sur la qualité et le rendu qu'on veut donner à nos clients. Et aussi pérenniser cette démarche de création de contenu et cette mentalité que oui, on est un centre commercial et oui, on peut prendre la parole auprès des clients, on a des choses à dire et on peut être intéressant. Donc voilà. Donc au niveau de la mise en place du dispositif, donc ça a été assez complexe parce que comme vous le disiez Bertie, du coup on avait 150 personnes réparties dans 12 pays à former. Donc ce sont des profils marketing majoritairement. Donc voilà, donc vous avez l'overview des 12 pays dans lesquels on s'est implanté. Donc on avait dans les personnes obligatoires à former les équipes marketing nationales, les équipes marketing de centre et les assistantes de centre qui ont été aussi une population assez complexe à former et à approcher parce que ce sont des assistantes de direction, donc qui ont plus de compétences sur la partie organisationnelle et comptable et qui ont très très peu de notions marketing, qui le font parce qu'elles sont sur le terrain et qu'elles sont obligées de s'y mettre et d'accompagner les équipes centres là-dedans. Mais il y a aussi cette notion d'appétence au digital. C'est-à-dire que, ok, on peut créer un contenu, on peut avoir une conversation, mais créer un contenu sur des canaux digitaux, c'est tout un autre sujet quand on a une population qui n'est pas du tout à l'aise avec ce type de technologie. et en personnes facultatives. Donc, on avait aussi les directeurs de centres et les agences locales. Donc, on a invité les agences de tous nos centres à participer à cette formation, même si eux, ce n'était pas une découverte. Ils savent évidemment ce qu'est une stratégie de contenu. Mais le but, c'était de les familiariser avec la stratégie de contenu de Klépierre et aussi de les onboarder dans cette formation afin qu'après la formation, a posteriori, ils puissent accompagner les équipes de centres dans la compréhension si jamais ce n'était pas totalement compris le jour de la formation. Et ce qu'on a fait pour organiser, c'est qu'on a fait des interviews dans tous les pays en amont de cette formation pour la prise de besoin, pour comprendre ce dont ils avaient besoin et quels étaient les problèmes qu'ils rencontraient sur le terrain pour la création de contenu. Et le problème principal, c'était l'hétérogénéité entre les différents types de postes qui prenaient part à cette création de contenu. Donc, comme je vous le disais, il y avait l'appétence au digital, il y avait le matériel à la disposition des centres, il y avait les connaissances et les compétences marketing, parce que avoir, et encore, quand je dis marketing, c'est aussi éditorial pur, hein, parce que pas tout le monde arrive à pondre un joli texte, à avoir une belle plume, c'est quand même quelque chose, c'est un exercice assez difficile. Et il y avait aussi le temps alloué à la création de contenu, parce que la création de contenu est, je dirais, 8% de leur temps sur le terrain, parce qu'après ils doivent gérer la relation avec tous les retailers, ils doivent installer les PLV in-mall, ils doivent imprimer, gérer les agences, gérer les projets, les événements. Donc je veux dire, c'est vraiment une partie très faible de leur activité au quotidien, et donc c'était aussi ça qu'il fallait qu'on essaye d'optimiser. Au niveau du format, malheureusement, cette formation devait avoir lieu en présentiel pour être dans les centres commerciaux concernés, pour les aider à se déplacer dans le centre et à leur faire comprendre comment ils pouvaient facilement créer du contenu sur leur centre commercial et prendre la parole sur leurs différents canaux. Or, le Covid repartant l'année dernière, on a été obligé de s'adapter et de changer totalement le format, et on a réadapté notre dispositif à une journée entière de formation sur Teams, donc assez difficile à suivre pour les participants. Donc c'était de 9h à 16h avec une heure de pause le midi, donc c'était assez dense. On avait des groupes de 6 à 12 personnes, donc c'est pas forcément facile à animer parce que d'un point de vue financier, on avait déjà 15 groupes au total à former. Donc comme on a évidemment pas travaillé tout seul, on a travaillé avec une agence aussi pour ce projet, et donc d'un point de vue financier, on ne pouvait pas avoir 30 groupes de formation, et aussi parce que ça nécessite une organisation, un planning. Voilà, qui est assez compliqué à construire avec les vacances dans les différents pays qui ne sont pas les mêmes. Donc voilà. Donc on a fait 15 groupes qui étaient organisés donc par pays ou par territoire d'un point de vue purement culturel, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas vocation à prendre parole sur les mêmes sujets. Par exemple, la diversité et l'inclusion dans nos centres, c'est un gros sujet pour nous. C'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on adresse de plus en plus dans nos futures stratégies et dans nos futures opérations. Et par exemple, il y a des pays comme nos pays scandinaves qui sont beaucoup plus avancés que la France ou l'Italie sur ces sujets. Là. Et on a des pays comme la Turquie qui sont beaucoup plus réfractaires. Je dirais pas qu'ils sont réfractaires à la diversité, mais je veux dire, culturellement parlant, c'est moins quelque chose d'inné chez eux, et ça mettra peut-être plus de temps à se mettre en place. Donc on a aussi créé les groupes par binôme, c'est-à-dire par équipe de centre, parce qu'il était logique qu'un directeur de centre soit dans le même groupe que sa responsable marketing, puisqu'ils ont le même sujet, ils ont le même produit, puisque c'est leur centre, par niveau de compétence. C'est-à-dire que, par exemple, on a créé une formation spécifique, on a décliné un format spécifique pour les assistantes de centre dont je vous parlais, qui ont un profil totalement différent. En général, les assistantes ou assistants sont des profils entre 40 et 55 ans, donc on n'est vraiment pas sur la même population. Donc on a créé des formats et des exercices pratiques totalement différents, justement, pour les animer, les onboarder plus facilement et ne pas qu'elles soient surprises et qu'elles soient perdues dans le contenu qu'on allait leur diffuser en leur parlant avec un vocabulaire technique de marketeur. Donc voilà. Et aussi par disponibilité, ce qui paraît évident. Et pour le choix des dates, on a fait un pari. Hein. On s'est dit, on va le faire pendant les vacances d'été, histoire que ce soit plus fun et plus compliqué à organiser. Mais c'était tout simplement parce que pour nous, pour un centre commercial, c'est une des périodes creuses. Effectivement, on a moins de monde, les gens sont à la plage. Donc ils ne sont pas dans un centre commercial où il y a beaucoup de monde et où il fait très chaud. Donc on s'est dit, voilà, c'est le meilleur moment, et en plus c'est le démarrage du deuxième semestre d'activité, donc quoi de mieux pour lancer un nouveau projet que de le faire au creux entre les deux périodes d'activité. Et donc pour les dates, pour organiser tout ça, pour la petite anecdote, on a fait un sondage donc, où il y avait 150 personnes qui répondaient, donc c'était quand même sympa à traiter, mais on y est arrivé donc à former 15 groupes entre les mois de juin, juillet et août. Au niveau de la communication interne, qui a été le pilier essentiel pour la tenue de cette formation. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une communication pré-formation qui était assez importante, c'est-à-dire qu'on a présenté le projet global de stratégie de contenu et de formation pendant notre séminaire marketing qui a lieu en juin, où du coup les 150 personnes dont je vous parle depuis tout à l'heure sont invitées au siège parisien et où on fait 3 jours de séminaire intensif. Et donc on leur a présenté ce projet et ce qui a été très agréable pour nous, c'est que le projet a été très bien reçu parce qu'ils appréciaient le fait d'être tous mis ensemble dans différents groupes et de pouvoir travailler sur des exercices pratiques et sur des problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Donc pour nous, ça a été un vrai soulagement de voir que le projet était très bien accueilli. Ensuite, on a désigné des sponsors, donc tous nos responsables marketing nationaux et les responsables RH nationaux étaient sponsors pour relayer l'existence de cette formation, pour encourager les personnes un petit peu moins volontaires d'y assister quand même, ne serait-ce que pour monter en compétences ou pour participer à des exercices de groupe et pour faire de la création de liens entre les différentes personnes, même si c'était en Teams. Après, on avait évidemment les envois de mails classiques d'invitation par Klépierre University, donc notre académie interne. Et on a également publié une vidéo teaser sur Workplace, donc le Facebook des entreprises. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent, mais donc voilà. Donc on a publié une vidéo teaser sur Workplace et qu'on a également relayé par mail à tous les participants 2 jours avant leur session. Donc je vous montre, mais je la laisserai peut-être pas en entier. Je ne sais pas s'il y aura le son. J'enlève le son. Mais voilà, donc on a fait une petite vidéo avec l'outil PlayPlay que vous connaissez peut-être et que vous utilisez peut-être dans votre entreprise. Voilà, c'était tout simple, mais le but c'était voilà, de remettre dans le contexte, d'expliquer quel était l'objectif de cette formation, de présenter les project managers internes, donc Salma qui a bossé avec moi, moi-même, et les formateurs qui étaient donc... en tête de ces formations-là, et donc Klépierre University et le contact RH qui s'est occupé de nous accompagner là-dessus. Donc voilà, et pour la communication post-formation, on a évidemment communiqué sur le nombre de participants et sur le taux de satisfaction parce qu'on trouvait que c'était quelque chose d'assez basique, mais que c'était très important de montrer qu'on les avait écoutés, qu'on avait pris leur sentiment à propos de cette formation a posteriori et qu'on avait analysé tout ça et qu'au final c'était très positif, donc ce qui ça était une très bonne nouvelle, comme vous vous en doutez. Donc, au niveau de la formation en elle-même, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on était en Teams, donc de 9h à 16h. Donc, projetez-vous en plein mois de juillet, chez vous, en télétravail si vous étiez chanceux ou au bureau si vous l'étiez moins, en train de suivre une formation de toute une journée avec donc, des personnes que vous ne connaissez pas au niveau des formateurs et vous êtes parfois mélangé avec d'autres pays. Donc, c'était assez compliqué. Donc, la première chose, c'était au niveau des animateurs. Pour chaque session, il y avait obligatoirement 2 animateurs pour changer les rythmes de parole. Pour ne pas s'endormir et donc j'ai assisté également aux 15 sessions de formation pour qui est toujours quelqu'un de chez Klépierre et du groupe pour pouvoir prendre la parole et surtout quand les participants avaient des questions qui étaient vraiment très relatives à l'entreprise et à notre stratégie où l'agence avait peut-être un peu enfin les formateurs avaient un peu plus de mal à répondre parce qu'ils ne sont pas dans l'entreprise tout simplement donc ça permettait d'être 3 et de changer vraiment le rythme de parole et de voilà et comme moi je les connaissais déjà les participants ça a aussi aidé de voir un visage familier. La deuxième chose, c'était de faire des icebreakers. Donc ça, c'est une technique que tout le monde connaît, je pense, dans le milieu de la formation et qui est très efficace pour détendre l'atmosphère et aider les participants à se parler. Donc le premier qu'on avait fait, par exemple, c'était prenez un objet qui vous appartient à proximité. Donc vous avez 1 minute pour attraper un objet. Et donc le but, c'était de nous expliquer l'histoire de cet objet et ce que cet objet représentait. Donc ça pouvait très bien être une pomme, quelqu'un qui adore manger une pomme le matin parce qu'il est en période de reprise en main. Et de remise en forme, comme ça pouvait être un souvenir de voyage, une photo de famille, un doudou, une tasse, qu'importe. Et en fait, à la fin de cet exercice, qui était hyper intéressant, c'est on leur a dit, voilà, vous nous avez raconté une histoire en quelques secondes sur un objet de votre quotidien qui est devant vos yeux tous les jours sur votre bureau. Et en fait, vous nous avez fait ce qu'on appelle du storytelling. Et vous l'avez fait naturellement et spontanément. Et nous, c'est ça qu'on recherche. Et c'est ça l'exercice que vous devez faire tous les jours dans votre centre commercial. Donc, c'était assez intéressant comme entrée en matière. La troisième chose, c'était évidemment des exercices pratiques en équipe. Donc, vous savez, sur Teams ou Zoom ou toutes les solutions pour suivre des réunions en ligne, on peut se splitter dans des petites salles pour faire des petits groupes. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, on a utilisé des outils en ligne. Donc, ça rejoint le point numéro 5. Par exemple, Miro, qui est un outil de whiteboard en ligne. Et en fait, on les faisait se connecter sur ce whiteboard et on leur a fait compléter, on leur a fait faire des quiz, on leur a fait faire des exercices de brainstorming sur les personas des centres en petits groupes. Et après, on faisait un wrap-up tous ensemble. On revenait dans la salle principale et donc chacun faisait ses retours sur ses personas. Et les exercices interactifs aussi, qui étaient quelque chose qu'on a testé malgré le fait qu'on était sur Teams. Par exemple, on a fait une session focus sur la photographie. On leur montrait des photos plus ou moins bonnes et on les faisait réagir en leur disant quel est le problème sur cette photo, qu'est-ce qu'il ne va pas, est-ce la luminosité, est-ce le modèle, est-ce la prise de vue, l'angle, est-ce que c'est juste pas approprié pour un centre commercial. Donc voilà, c'était pour faire du partage de bonnes pratiques et de mauvaises pratiques et en même temps les faire réagir. Donc ça leur a permis de se réveiller. En plus, c'était le dernier exercice de l'après-midi. Donc comment vous dire qu'ils n'avaient qu'une hâte, c'était que ça se termine. Donc c'était assez, assez intéressant. Au niveau des apprentissages du coup de cette formation qui a été donc un long processus à mettre en place, donc la bonne nouvelle c'était que la satisfaction de cette formation était de 4,6 sur 5, donc une très jolie réussite avec une nette préférence effectivement pour les parties interactives sans surprise plutôt que sur la partie top down et aussi une grosse préférence pour les exercices en équipe et nous on était très contents de la réalisation de ce projet puisque l'objectif d'appropriation et de compréhension de ce qu'est une stratégie de contenu et de l'importance de créer du contenu et de prendre la parole de manière omnicanale sur tous les canaux sur lesquels nous communiquons a bien été compris et a bien été mis en place par toutes les équipes et on voit net résultat aujourd'hui encore. Au niveau des points d'amélioration, puisque c'est effectivement toujours important de se poser cette question-là, c'était de privilégier les formations de ce type-là en présentiel parce qu'effectivement ça faisait plus sens quand ton produit est un lieu, ce qui est le cas pour nous. C'est beaucoup plus important d'être plongé dans l'univers et dans l'ADN du lieu en question pour faire une formation qui fait sens. Et également pour les parties interactives et pour les parties brainstorming, c'est quand même beaucoup plus agréable de faire ça en présentiel qu'à distance. On voulait aussi se dire que ce serait bien d'optimiser la durée totale puisque de 9h à 16h c'était quand même assez intense et de privilégier la quantité de contenu interactif encore une fois par rapport au contenu top-down puisqu'ils en ont assez d'avoir des personnes qui leur racontent ce que c'est qu'une stratégie de contenu. Donc l'idéal c'est de leur faire faire des exercices et donc pour nous l'idéal et qui est un gros challenge pour nous c'est d'avoir une stratégie globale, c'est-à-dire de personnaliser à chacun de nos centres. Sauf que, comme vous l'imaginez, on a 111 centres dans 12 pays. Donc, faire un support de formation différent pour chacun des centres serait un travail monstre qui prendrait énormément de temps. Et je pense que le temps de produire ces supports-là, les tendances auraient déjà changé. Donc, du coup, le marché aurait déjà changé. Donc, c'est assez compliqué. Donc, le but, c'est de faire de l'accompagnement personnalisé au quotidien. Et c'est notre travail au groupe et aux directions nationales. Mais en tout cas, l'exercice a quand même été relativement positif. Et au niveau donc des prochaines étapes, on s'est dit qu'il était important de faire une version plus éducative et plus courte. Donc, on va utiliser notre outil de e-learning qui s'appelle LearnUp pour Klépierre, mais qui du coup est une solution Teach on Mars, pour mettre un module de formation sur les basiques du content marketing, avec donc des vidéos, avec des exercices pratiques, avec des quiz, enfin plein de choses qui sont pour valider les acquis vus pendant la première session, mais aussi pour former d'autres collaborateurs qui ne sont pas en marketing et qui pourraient être intéressés de se cultiver et de comprendre en fait le métier de leurs collaborateurs ou pour des personnes qui souhaiteraient faire de la mobilité interne et par exemple de la communication corporate passer au marketing, des choses qui se font relativement souvent. Donc voilà pour la petite histoire.